Michel, bonjour, bienvenue.
Bonjour Joël.
Voilà, les micros s'ouvrent, donc dans quelques instants on va retrouver, mais on aura le petit jingle pour nous mettre dans l'ambiance. Voilà, donc bonjour Michel, dans quelques instants c'est la chronique Astro 136. Corinne, j'aurais pu commencer par vous être galant, présidente de l'association AG33, Astronomie Gironde.
Voilà, bonjour bienvenue. Joël, Michel et Serge.
Et voilà Serge, je ne vous oublie pas, et Serge donc trésorier, toujours trésorier, il n'y a pas eu d'assemblée générale.
Toujours.
L'association astronomique Vega de la Lyre à l'observatoire de Verre. Donc là, on va sur le protocole, on va aller droit au but, on va écouter Michel, mais évidemment, on parlera de cette conjoncture autour des incendies pour voir, il y a des événements qui sont annulés, hein, comme la nuit des étoiles prévue initialement ce 31 juillet à Mérignac, et on verra avec chacun d'entre vous en quoi ça impacte aussi. Allez, Christelle, si vous voulez bien, voilà, nous mettre un petit peu dans l'ambiance et Michel va attaquer, façon de parler, sa 136e chronique astro.
La Terre, elle brille en fait, elle est d'un bleu brillant, elle...
Houston, we have a problem.
It's one small step for man. One giant leap for mankind.
L'histoire de l'espace.
Et puis la Terre, c'est immense, on est vraiment tout petit.
En visitant des planètes, nous sommes de nouveau Christophe Colomb, qui découvrons des terres nouvelles, qui jusqu'à présent n'étaient que des petits points de lumière dans le ciel, d'une part. Et d'autre part, nous plaçons des engins qui reçoivent les lumières X, gamma, infrarouge, ultraviolet, de toutes les longueurs d'onde. Et ces lumières de toutes les longueurs d'onde nous apportent toute l'information des astres, information que jusqu'à présent nous n'avions pas.
Creating a self-sustaining civilization on Mars would be the greatest adventure ever.
Voilà, ça nous permet d'être un petit peu dans l'ambiance. Et Michel, voilà, je vous laisse le soin de présenter votre 136e chronique astro.
Oui, alors avant cette chronique, hein, au nom des invités aussi, je tenais à dire, nous voulions indiquer que nous sommes bien conscients de la situation préoccupante en Gironde et de l'aspect un peu dérisoire de parler du ciel et des animations des nuits des étoiles, alors que des milliers de personnes sont touchées par les incendies catastrophiques. Et nous avons aussi une pensée pour tous les pompiers qui combattent ce feu hors norme et les autres intervenants et bénévoles qui participent à cette lutte, chacun à son poste. Mais comme on dit, la vie continue.
Voilà, on est tout à fait d'accord. Et puis Serge et Corinne diront quelques mots en quoi ça impacte, parce que c'est vrai qu'on est d'abord dans une conjoncture comme celle-ci, citoyen avant tout. Donc voilà, avec cette actualité, mais comme c'est le sujet qui nous rapproche. Mais enfin, on en reparlera tout à l'heure, mais c'était bien de commencer par cela. Et là, Michel, vous avez, pour attaquer, je ne sais pas pourquoi j'emploie ce mot attaquer aujourd'hui, votre chronique, et commencer par les actualités, notamment le feuilleton des tests du Starship et du programme lunaire à Artemis.
Oui, alors vu la partie consacrée aux nuits des étoiles avec nos invités, qui sera sans doute plus longue que d'habitude avec l'éclipse du 12 août qui suivra, j'ai réduit cette partie actualité à des informations du domaine aérospatial, car il n'y avait rien de bien notable à dire en astronomie ce mois-ci. Depuis le 12e tir d'essai d'un Starship, le premier de la nouvelle version V3, le 22 mai dernier, qui n'était qu'un demi-succès avec plusieurs ratés, notamment des nouveaux moteurs Raptor V3, on attendait le suivant pour voir si SpaceX avait résolu ses problèmes. Je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit de la plus grande fusée jamais construite quand les 50 mètres du vaisseau sont posés sur les 70 mètres de son premier étage Super Heavy. Les retards répétés dans sa mise au point impactent le planning du programme lunaire Artemis de la NASA, car le Starship est censé être utilisé pour se poser sur la Lune et en redécoller, c'est-à-dire le rôle de HLS, Human Landing System, ce qui a conduit l'agence spatiale à revoir peut-être son choix en prévoyant de la remettre en concurrence avec le module Blue Moon de Blue Origin lors de la future mission Artemis 3, prévue l'an prochain, qui doit répéter en orbite terrestre les manœuvres des vaisseaux lunaires avec la capsule Orion et son équipage. Le 13e essai du Starship, deuxième de la version V3, était initialement programmé pour le jeudi 16 juillet dans l'après-midi, dans la nuit pour la France. Tout semblait bien se dérouler sans aucune interruption du compte à rebours jusqu'à zéro, où on a vu le déferlement massif des jets d'eau pour refroidir le pas de tir à l'allumage des moteurs, dont on a aperçu brièvement la lueur, puis plus rien. Le tir a fait pchit, si je peux dire. L'explication est venue un peu plus tard, le lancement a été automatiquement stoppé car plusieurs moteurs ne s'étaient pas allumés. Le tir a été reporté d'une semaine, au jeudi 23, le temps de remplacer les 6 moteurs défectueux. Mais le jour J, il était encore repoussé de 24 heures en raison d'un problème de météo, selon SpaceX. Tous ces déboires ont eu une conséquence très négative sur le cours de l'action de la société qui avait été introduite en bourse le 11 juin, avec une redescente très rapide l'amenant en dessous de son prix initial. Il faut dire que SpaceX traversait une semaine noire, car un tir d'une fusée Falcon 9 pour lancer un groupe de satellites Starlink avait également raté le 20 juillet, aussi pour un problème de moteur. Alors que ceux-ci, des Merlin fonctionnant au kérosène, n'ont rien à voir avec les Raptors du Starship. Ces lancements étaient pourtant devenus une routine, puisque c'est en moyenne 2 à 3 fois par semaine que des Falcon propulsent une vingtaine de Starlink en orbite. Le dernier échec du Falcon 9 remontait à juin 2024 et 319 tirs avaient été réussis depuis.
Alors pour en revenir, Michel, donc à l'essai du Starship.
Alors le lancement a donc eu lieu le vendredi 24, dans la nuit du vendredi au samedi en France. Et pour l'avoir suivi en direct, je peux dire que tout semble s'être bien déroulé. Les deux étages se sont séparés 2 minutes 30 secondes après le tir. Le vaisseau a atteint l'espace jusqu'à environ 150 km d'altitude, avant de larguer avec succès 20 vrais satellites Starlink V3, bien plus gros que les versions précédentes, alors que c'était des leurs qui étaient largués lors du 12e essai. Cette mission du Starship est cruciale pour le déploiement futur de la méga constellation de communication de SpaceX, à terme 42 000 satellites, pour atteindre des débits plus élevés. Ceux largués lors du test ont ouvert leurs panneaux solaires vers 200 km d'altitude et ont fonctionné en échangeant avec leurs homologues et le sol, mais seulement pendant quelques minutes, avant de chuter dans l'atmosphère et s'y consumer, car il s'agissait d'une simple démonstration. Plus loin dans son vol, environ 40 minutes après le tir, le Starship a réussi le rallumage d'un de ses moteurs dans le vide spatial, une manœuvre indispensable pour les futurs vols complexes en orbite ou vers la Lune. Pour finir, il a bien maîtrisé sa rentrée atmosphérique jusqu'à son amerrissage en douceur à la surface de l'océan Indien, réussi pour la première fois, sans explosion comme en mai, ce qui nous a valu la curieuse vision de cette épave vide flottant quelques minutes avant de sombrer. Mais tout n'a pas été réussi pour autant, car le premier étage ou booster, Super Heavy, n'a pas pu rallumer une partie de ses moteurs lors de sa redescente vers l'océan Atlantique à quelques kilomètres de la base de lancement, ce qui l'a fait s'écraser violemment au lieu de s'enfoncer en douceur dans les vagues comme c'était prévu. Par ailleurs, il s'agit toujours d'un vol suborbital, puisqu'aucun Starship n'a encore réalisé une boucle complète autour de la Terre, et on est donc encore loin de la mise en orbite nécessaire pour la mission Artemis 3 l'an prochain. Et encore plus des manœuvres complexes, dont le remplissage des réservoirs en orbite pour l'envoi d'un Starship jusqu'à la Lune s'il doit transporter les astronautes d'Artemis 4 entre leur capsule et la surface lunaire.
Et pendant ce temps, la Chine continue de progresser régulièrement.
Oui, alors comme je le répète souvent ici, il est bien possible que ce soit un taïkonaute chinois qui marque le retour de l'humanité sur la Lune en 2030, voire même en 2029. Mais le lanceur lourd actuellement utilisé par la Chine pour ses missions habitées, la fusée Longue Marche, est d'une conception classique, à usage unique comme l'européenne Ariane, alors que l'évolution impulsée par SpaceX conduit à des systèmes partiellement réutilisables, comme le premier étage du Falcon 9, ou totalement, comme c'est prévu dans le futur, pour le Super Heavy et le Starship. À titre d'illustration, le tir raté du Falcon 9 le 20 juillet, d'ailleurs réussi le lendemain, utiliser un premier étage dont c'était la 23e utilisation. Et selon Elon Musk, il est possible que ces modules puissent être utilisés jusqu'à une cinquantaine de fois. Pour le Starship, aucune manœuvre de récupération n'a encore été tentée, mais lors d'essais précédents, on a pu voir à 3 reprises le Super Heavy revenir à la base de tir pour être attrapé en douceur par les bras de la tour de lancement. Une image très spectaculaire. La Chine se dirige donc aussi vers des fusées réutilisables et le 10 juillet, elle a réussi une démonstration impressionnante en récupérant en douceur le premier étage d'une fusée Longue Marche 10B, celle qui doit emporter des taïkonautes jusqu'à la Lune. Elle avait décollé 6 minutes plus tôt de la base spatiale de Wenchang sur l'île de Hainan en mer de Chine méridionale et propulsé une charge dont on ignore la nature en orbite, avant de revenir vers une barge en mer à 630 km de son point de départ et rallumer l'un de ses 7 moteurs pour freiner sa descente. Un impressionnant portique a alors capturé l'étage de 63 mètres de haut avec un système de câbles entrecroisés, un dispositif différent, des bras pour le Super Heavy de SpaceX ou des sortes de pattes déployables pour ses étages de Falcon ou la New Glenn de Blue Origin. Après l'essai d'une longue marche 10A le 11 février dernier, ce nouveau test marquait une autre première avec l'utilisation pour son deuxième étage d'un nouveau moteur utilisant du méthane et de l'oxygène liquide, comme le Starship, amenant sa capacité d'emport à 16 tonnes en orbite basse, qui sera portée à 70 tonnes avec la jonction de deux autres étages de part et d'autre du corps central, ou 27 tonnes jusqu'à la Lune, où elle pourra propulser le vaisseau Meizu. Selon l'agence spatiale chinoise, l'étage récupéré devrait être réutilisé pour un prochain test avant la fin de l'année. Et pour être complet sur cette course aux fusées réutilisables, je dois signaler que la JAXA, l'agence spatiale japonaise, a également réussi un tir le 11 juillet dernier d'un prototype qui s'est reposé en douceur sur le site d'essai de Noshiro après un vol de 40 secondes où il n'a pas dépassé 10 mètres d'altitude. À noter que la société privée Honda l'avait précédé en juin 2025 avec un vol similaire d'environ 57 secondes, une altitude de 270 mètres et un retour à seulement 37 cm du point visé. Bien entendu, il s'agit de tests préliminaires avant des vols plus ambitieux.
Alors l'envoi d'un satellite pour en sauver un autre.
Alors comme je l'ai déjà eu l'occasion de le dire ici, l'atmosphère ne s'arrête pas brusquement à 100 km d'altitude où on fait officiellement commencer l'espace, mais elle se dissipe très progressivement sur des centaines de kilomètres avec une densité de plus en plus ténue. Et cela produit une sorte de frottement aérodynamique des satellites, surtout en orbite basse, ce qui les ralentit progressivement et leur fait perdre lentement de l'altitude jusqu'à leur chute inéluctable dans l'atmosphère, où ils seront détruits car pas protégés contre les très hautes températures produites par cette entrée à haute vitesse. C'est le cas notamment du télescope spatial SWIFT, lancé en 2004, qui orbitait initialement à 600 km d'altitude mais est progressivement descendu jusqu'à 370 km. C'est l'un des très rares observatoires dans le domaine des rayons X, ce qui lui permet notamment de détecter le phénomène très bref des sursauts gamma. La NASA a donc envisagé une mission de sauvetage et le petit satellite Link, de 425 kg, même pas le tiers de SWIFT, a été lancé le 3 juillet pour aller à sa rencontre. C'est un lancement assez particulier car il est propulsé par une fusée Pegasus XL, elle-même larguée en altitude par un avion. Link est une sorte de remorqueur spatial, car une fois rejoint sa cible sur son orbite actuelle, il doit tenter de l'agripper avec ses trois bras robotiques, puis allumer ses trois moteurs à plasma pour le hisser lentement jusqu'à son orbite initiale à 600 km, prolongeant ainsi sa mission d'une dizaine d'années. Avec toutes les précautions pour ne pas endommager SWIFT, ces opérations dureront sans doute plusieurs mois. Si c'est une réussite, malgré le peu de temps pour préparer cette mission de sauvetage, confiée seulement 9 mois plus tôt, en septembre 2025, à la jeune société Catalyst, elle pourrait inspirer d'autres opérations similaires mais plus ambitieuses, notamment pour le télescope spatial Hubble, dont la chute s'accélère depuis 2022 et qui pourrait rentrer dans l'atmosphère au début des années 2030. Son dernier rehaussement par la navette Columbia remonte à 2002. En 2022, la NASA a signé un accord avec SpaceX pour étudier la possibilité de le faire avec une capsule Crew Dragon et a aussi interrogé l'industrie américaine sur d'autres propositions, dont la mission Swift Boost en cours avec le satellite Link, qui permettra de confirmer ou non la faisabilité de telles manœuvres sur des satellites qui n'ont pas été conçus pour cela à l'origine. À plus long terme se pose aussi la question de l'ISS, la Station Spatiale Internationale, dont les missions doivent aussi cesser vers 2030, ce qui la priverait de la poussée de rehaussement exercée de temps en temps par les capsules habitées, ce qui menace de la faire chuter dans l'atmosphère dans les deux ans qui suivent. Elle nécessiterait un démantèlement organisé car sa taille et la robustesse de ses modules représenteraient un trop grand danger avec les débris atteignant le sol sans contrôle.
Allez, vous êtes toujours à l'écoute des programmes d'Odo Radio. On est le mercredi 29 juillet. On sera rediffusé le vendredi 31 juillet. Voilà, toujours avec Michel Favré pour sa 136e chronique Astro. Voilà, piquons-nous, Astro. Et là, Michel, vous allez nous présenter la deuxième partie de votre chronique et nous parler du ciel du mois.
Oui, puisque nous avons des invités pour parler des nuits des étoiles, je traite exceptionnellement cette rubrique avant et non à la fin de la chronique comme nous en avons l'habitude. Comme chaque mois, je renvoie nos auditeurs vers la rubrique Ciel du mois de la section astronomie de notre site web. Je rappelle www.constellationsetgalaxies.org. Pour avoir les cartes du ciel correspondantes, on ne peut pas montrer les cartes à la radio, et avoir plus de détails. Je les mettrai à jour pour août d'ici la fin de la semaine. Même si les jours ont commencé à raccourcir depuis le solstice d'été du 21 juin, nous sommes toujours dans une période moins favorable pour les observateurs du ciel nocturne, avec un soleil qui se couche en ce moment vers 21h30 et la nuit qui n'arrive que vers 22h45, et même presque 23h30 si on attend un ciel bien noir. Fin août, ce sera pratiquement une heure plus tôt, avec le coucher vers 20h30 et la nuit vers 21h45. Pour le week-end des nuits des étoiles, la nuit n'arrivera que vers 22h30, et malheureusement pour les organisateurs d'observation nocturne, il n'y aura pas de lune pour patienter pendant le crépuscule, ni de planète brillante, excepté Vénus qui n'est pas très intéressante, sauf pour sa forme, qui varie suivant son éclairage par le soleil, comme la lune, semblable à un premier quartier pour les trois soirées des nuits des étoiles. L'absence de lune jusque tard dans la nuit sera un avantage pour admirer les objets plus faibles, comme les nébuleuses et galaxies, puisqu'ils sont mieux visibles par contraste avec un fond de ciel bien noir. En cette fin juillet, comme nous sommes en été depuis environ un mois, au début de nuit, ce sont les constellations typiques de cette saison qui occupent la plus grande partie du ciel. Même si quelques-unes du ciel de printemps sont encore visibles vers l'ouest, comme le Lion en train de se coucher, le Bouvier et la Vierge, qu'on peut situer avec leurs étoiles les plus brillantes qu'on trouve en prolongeant l'arc de la queue de la casserole, la partie la plus brillante de la Grande Ourse, d'abord Arcturus du Bouvier, puis Spica de la Vierge. Au sud-est, on voit apparaître dès le crépuscule les trois étoiles brillantes qui forment le triangle de l'été. Vega, la plus haute, Deneb, la plus à l'est, et Altaïr, la plus basse, permettant de situer leurs constellations respectives de la Lyre, du Cygne et de l'Aigle. Quand le ciel sera assez noir, on pourra distinguer le long du Cygne et de l'Aigle le ruban laiteux de la Voie lactée, incliné à peu près à 45 degrés, et qui nous conduit vers le sud à deux autres constellations bien reconnaissables, du Sagittaire et du Scorpion. À l'est, ce sont des constellations de l'automne qui se lèvent, notamment Pégase, bien reconnaissable à son grand carré, et dans le prolongement Andromède, dans laquelle on peut distinguer l'objet le plus lointain visible à l'œil nu, la grande galaxie M31, que les astronomes ne manqueront pas de vous montrer au télescope durant les nuits des étoiles, tant elle est grande et lumineuse. Ce sera un peu une exception, car le ciel d'été est surtout favorable à l'observation d'amas d'étoiles et de nébuleuses, c'est-à-dire d'immenses nuages de gaz, qui peuplent la Voie lactée, notre galaxie, tellement présente dans le ciel d'été qu'elle limite la profondeur de notre regard pour atteindre des objets plus lointains comme les autres galaxies. À la fin du mois d'août, avec la nuit qui survient plus tôt, la situation sera analogue en début de nuit, sauf que le Lion sera déjà couché et la Vierge pas loin de l'être. Les constellations de l'été, le fameux triangle plus haut dans le ciel, avec la brillante Vega presque au zénith, c'est-à-dire au-dessus de notre tête, et les constellations d'automne plus hautes à l'est. Côté planète, comme je l'ai dit à propos des nuits des étoiles, nous ne sommes pas gâtés le soir car nous n'avons que Vénus dans le ciel et pas très haute à l'ouest car elle se couche peu après 23 heures en ce moment. Jour après jour, sa hauteur dans le crépuscule diminuera et elle se couchera de plus en plus tôt, seulement une heure après le soleil fin août. Ensuite, il faut patienter jusqu'au lever de Saturne, un peu après minuit en ce moment, dès le début de nuit fin août, mais il faut attendre au moins une heure voire deux pour l'observer dans de meilleures conditions, car plus haut dans le ciel. On pourra alors admirer ces anneaux au télescope, car je rappelle qu'ils ne sont pas visibles dans une simple paire de jumelles. Donc une cible possible pour les nuits des étoiles, mais pas avant 1h du matin environ. Enfin, il y a Mars qui se lève beaucoup plus tard dans la nuit, après 3h en ce moment, 2h30 fin août. Comme chaque mois, la Lune s'invitera près de ses planètes en produisant des conjonctions, à commencer par la nuit du mardi 4 août, on pourra voir un peu avant minuit Saturne se lever proche de la Lune gibbeuse apparue quelques minutes plus tôt. Puis le matin du dimanche 9 août, ce sera le tour de Mars d'accompagner un croissant de Lune à partir de 3 heures. Et enfin, les 15 et 16 août, la très brillante Vénus accompagnera le coucher du Soleil, du croissant de Lune, pardon, dans les lueurs du crépuscule, alternativement à gauche puis à droite, mettant en évidence le mouvement de la Lune relativement rapide par rapport aux autres astres. Plus que la largeur d'une main bras tendu d'un jour au lendemain. Et une autre curiosité à voir dans le ciel pour les Nuits des Étoiles, qui s'appelait d'ailleurs Nuit des Étoiles Filantes à leur création, les fameuses Perséides, toujours visibles en été de la mi-juillet à la mi-août, avec un maximum d'activité prévu le 12 août, peu après la Nuit des Étoiles, où elles devraient déjà être nombreuses à zébrer le ciel pendant les soirées d'observation. Mais bien sûr, le phénomène astronomique de ce mois d'août sera la très spectaculaire éclipse partielle de soleil du mercredi 12 août, la Lune le masquant à plus de 90% partout en France et à environ 97% dans notre région. C'est-à-dire qu'au maximum, il ne restera plus qu'un très fin croissant lumineux de seulement 3% du limbe solaire, dans une ambiance presque crépusculaire. On n'a rien vu de tel depuis l'éclipse du 11 août 1999, il y a 27 ans, qui avait été totale au nord de la France, le long d'une bande courant de la Normandie à l'Alsace. On peut presque dire que c'est l'éclipse du siècle pour la France, car pour la dépasser, il faudra patienter jusqu'au 3 septembre 2081. Autant dire que seuls les plus jeunes de nos auditeurs auront la possibilité d'y assister, avec une bande de totalité qui ira de la Bretagne à l'Alsace. Les cycles astronomiques sont parfois très longs à l'échelle d'une vie humaine. Malheureusement, l'éclipse du 12 août se déroulera tard en soirée, avec un début vers 19h30, quand la Lune commencera à grignoter le limbe solaire, un maximum vers 20h30, et la fin qui ne sera pas visible car les deux astres se seront couchés quelques minutes avant. Autant dire qu'elle sera très basse, à environ 7 degrés de hauteur au-dessus de l'horizon, même pas la largeur d'une main bras tendue. Il faudra donc choisir un site d'observation ayant un horizon ouest bien dégagé, ouest-nord-ouest si on veut être précis, sans aucun obstacle, colline, arbre, bâtiment susceptible de masquer le spectacle céleste. La lumière intense du soleil étant dangereuse pour nos yeux, même pendant l'éclipse, il faut impérativement utiliser des lunettes spéciales éclipse pour l'observer en toute sécurité et équiper tous les instruments optiques, y compris jumelles et appareils photo, de filtres spéciaux ne laissant passer qu'une infime fraction de la lumière. Toutes les solutions artisanales, genre négatif photo complètement noir ou cliché radiologique, voire verre couvert de noir de fumée ou masque de soudeur, sont dangereux car ils ne filtrent pas assez efficacement le rayonnement solaire. Tous les clubs d'astronomie qui accueilleront le public pour cette observation disposeront certainement des équipements nécessaires, mais les auditeurs qui souhaiteraient acquérir des lunettes pour éclipse en trouveront probablement chez la plupart des opticiens, peut-être même dans certaines pharmacies. Et parmi ces boutiques, nous n'oublions pas nos amis d'Astronomie Espace Optique à la barrière de Pessac, qui est spécialisé dans les instruments astronomiques comme son nom l'indique. Il y a aussi la possibilité de trouver en kiosque le numéro août-septembre de Ciel et Espace, la revue de l'AFA, Association Française d'Astronomie, qui est principalement dédiée à l'éclipse et comporte une paire de lunettes incluses. Enfin, comme toujours, il y a une éclipse de lune 15 jours ou avant ou après une éclipse de soleil, et cette fois-ci, ce sera le 28 août, avec une éclipse de lune, mais difficile à observer, car elle sera au maximum vers 6h du matin, en débutant vers 4h30, donc difficile parce que très basse, et se terminant dans les lueurs de l'aube vers 6h du matin.
On est toujours avec Michel Favret, voilà, 136e chronique astro. Et là, Michel, vous allez aborder la troisième partie de votre chronique avec le sujet, le thème du mois et les nuits des étoiles 2026.
Alors, tout le monde connaît probablement cette manifestation nationale très populaire qui existe depuis 1991 à l'initiative de l'AFA, fédération regroupant la plupart des clubs d'astronomie en France. Les plus anciens se souviennent peut-être des premières éditions qui donnaient lieu à toute une soirée d'astronomie sur Antenne 2 à l'époque, avec des intervenants prestigieux comme par exemple Hubert Reeves. Cette période dorée est bien révolue puisque France Télévisions a cessé son partenariat en 2003. Même Arte, qui diffusait ces dernières années des documentaires sur le thème de l'espace lors d'une journée spéciale dédiée aux Nuits des Étoiles, semble avoir aussi oublié ce rendez-vous en 2026. Cette année, pour la 36e édition, le thème choisi par l'AFA est le Soleil, en raison de la spectaculaire éclipse qui se déroulera le mercredi suivant. Bien entendu, les organisateurs de manifestations sont libres de parler de ce sujet ou d'autres selon leur choix. Les Nuits des Étoiles sont programmées du vendredi 7 au dimanche 9 août, donc dans une dizaine de jours. Et pour donner une idée de l'importance de cette opération, il y a 608 manifestations prévues en France dans plus de 400 communes, Et l'an dernier, avec des chiffres analogues, ces animations avaient attiré 154 000 participants. Pour avoir le détail des manifestations, les dates et les lieux, le mieux est de consulter le site en ligne de l'AFA à www.afaastronomie.fr où la page dédiée à l'opération propose une carte indiquant les animations qui auront lieu partout dans l'Hexagone, sur laquelle on peut zoomer ou filtrer selon différents critères, par exemple le département. Pour ce qui concerne la Gironde et surtout la région bordelaise, nous allons en parler maintenant plus en détail avec nos invités.
Voilà, justement, merci Michel. Hein, et puis vous donnerez, vous aurez un complément d'infos. Alors chacun, voilà, mais Serge, rappelez-nous déjà de quelle association, même si chaque fois faut redire. Mais voilà, si vous voulez bien ce premier exercice, et puis après on va se plonger dans l'actualité, à la fois la conjoncture, la triste conjoncture, et ce que vous allez proposer.
Alors nous sommes à la station astronomique Vega de la Lyre, à l'observatoire qui est situé sur la commune de Verre, au nord du département, au nord du département, entre Bordeaux et Libourne. Nous accueillons tout le grand public tous les samedis soirs de 21h à minuit, qu'ils soient nos membres ou le public qui est de passage, c'est avec plaisir, au besoin d'aucune connaissance particulière, juste rêver, regarder, et nous pouvons aussi donner quelques informations plus ou moins techniques sur les couleurs des étoiles ou leur position.
Alors la première question, bien sûr, cette triste conjoncture quand voilà avec tous ces incendies, il y a des infos, des arrêtés préfectoraux, ça bouge dans un premier temps. On est tous des citoyens avant tout, bien sûr, mais en quoi ça impacte sur vous l'association voilà, est-ce que vous êtes réunis ces derniers jours vous aviez certainement un programme à suivre et comment on s'en accommode?
Alors bien sûr, nous suivons l'actualité. Nous sommes un peu moins impactés que beaucoup d'autres associations parce que nous sommes au nord-est du département, donc pas très loin de Libourne, en pleine campagne, mais nous suivons toute l'actualité, respectant bien sûr toutes les préconisations préfectorales et toutes les autorités administratives. Mais voilà, donc suivant, nous accueillons si c'est possible, et actuellement c'est possible.
Vous aviez un programme prévu ces jours-ci ?
Bien sûr, comme tous les samedis soirs de 21h à minuit, nous suivons l'actualité pour voir ce qu'il en sera.
Bon, dit comme ça, Serge. Par rapport à l'Unité des Étoiles ou autre événement, vous aviez des événements ponctuels, parce qu'il y a évidemment tout au long de l'année ce que vous organisez, j'ai bien compris. Mais là, vous avez prévu, sur cet été 2026, des événements ponctuels.
Alors bien sûr, pour l'Unité des Étoiles, nous serons ouverts à partir de 15h pour le grand public pour observer le soleil. Le soleil, quand il sera totalement entier. C'est une bonne expression.
Puis après, on se comprend.
Voilà. Puis après, avec des animations aussi pour les jeunes enfants, pour les adultes, avec bien sûr en toute convivialité, avec tout ce qui est buvette, restauration. Et à la suite, dans le grand télescope de la coupole, qui est accessible au grand public, nous pourrons observer le ciel, surtout étoilé, cette soir-là. Et aussi, en y tenant beaucoup, avec le ciel à l'œil nu. Avec pour montrer les constellations, les étoiles, les galaxies qui sont visibles sans aucun instrument. C'est aussi notre manière de faire l'astronomie, la manière, on va dire, très très simple, qui est accessible à tout le monde. Juste lever le nez au ciel et se rendre compte que le ciel est aussi très beau. Même si actuellement, il y a des couleurs qui sont un peu particulières dues aux fumées et aux particules dans l'atmosphère, ça donne des choses un petit peu très bizarres.
Bon, mais c'est la vie en même temps, voilà, il faut s'en accommoder. Donc là, ça va être le seul événement de l'été, c'est pas péjoratif, bien sûr, dans ma bouche, parce que vous avez toute une animation récurrente tout le long de l'année. Et là, sur les temps forts...
Alors bien sûr que non, pour l'éclipse solaire qui sera le mercredi 12 août, nous allons ouvrir au grand public et à nos membres à partir de 17h. Pareil, pour observer le soleil d'abord dans des instruments spécialisés, comme nous le faisons régulièrement. Et après, quand l'éclipse arrivera, nous pourrons l'observer. Et à disposition, il y aura bien sûr aussi des lunettes individuelles d'éclipse solaire, mais aussi dans nos instruments spécialisés pour l'observation du soleil, quand il est en totalité ou en particulier quand il est particulièrement obscurci. Et nous enchaînerons la suite avec la nuit. Une petite restauration aussi quand même, parce qu'il ne faut pas oublier de manger,
ça,
de boire.
Ça, c'est la bienveillance,
voilà.
Oui, bien sûr.
Et les glaces.
On est habitué.
Et les glaces, c'est important.
Je pensais que vous allez me donner les parfums aussi.
C'est possible aussi. Et après, après avoir regardé le soleil, nous proposerons à nos visiteurs d'observer le ciel nocturne, comme tous les autres samedis soirs, mais là ce sera un mercredi, voilà. Donc tout le monde sera le bienvenu à Vers, qui est entre Libourne et Bordeaux, près de la 89.
Sur les animations, voilà, c'est déjà pas mal, hein, en organisation. Il y a des choses de prévues ou...
Tous les samedis soirs de 21h à minuit, toute l'année.
Ça, j'ai bien compris.
C'est systématique.
Mais c'était de ponctuel parce que j'ai pas toutes les infos. Allez, on va donner la parole à Corinne, mais Serge, je reviendrai vers vous pour également donner les infos, site internet, etc. Allez, Corinne, la première question, bien sûr, comme chaque fois, hein, même ça paraît redondant de se répéter. Mais voilà, les auditeurs virtuels, on les connaît pas tous. Alors, Astronomie Gironde AG33, rappelez-nous un petit peu les activités tout le long de l'année. Et je sais que vous avez un programme, même si celui du 31 est malheureusement annulé pour les raisons que l'on sait. Alors, en quelques mots, tout d'abord, l'association, les objectifs, les missions.
Alors, nous sommes toujours basés à SOCAT, donc, qui est un peu, quoi, qui est pas mal impacté d'ailleurs par ces incendies, dans le sens où elle était sous le couvert d'évacuation. Je crois qu'elle est toujours, mais bon. Du coup, on a de la chance que le week-end prochain, ce soit la pleine lune, donc on fait rien, quoi, à part on avait cette animation à Mérignac.
Ce vendredi, bien sûr, avec absence.
Voilà, c'est annulé. Et après, nous, on va plus aller vers le week-end des Nuits des Étoiles, hein, 7, 8, 9. Et le problème vient du 7, on ne sait pas encore si on va pouvoir le maintenir, vu un arrêté préfectoral que l'on comprend. Qui a été posé, mais on va tenter quand même de demander une petite dérogation, même si on a déjà réfléchi à une date de report. Le seul problème vient de cette éclipse de soleil. Comme aucun membre de l'asso AG33-40 quand même ne sera sur place, vu qu'on part tous en Espagne, hein, c'est un peu un petit cadeau de l'année. Donc on fera pas du tout d'animation pour cette éclipse, mais notre idée, c'était pour les membres de SOCAT et les villages avoisinants, c'était de faire de la pédagogie autour de l'éclipse, distribuer des lunettes à éclipse, etc., etc. Mais là, pour le coup, si on peut pas le faire, eh ben ce sera seulement reporté au 22 août, mais ça ne devra plus rien dire pour cette éclipse. C'est dommage parce que le mémorial étant un site très très bon pour cette éclipse, pour l'observation de cette éclipse, vu qu'on n'a aucun obstacle à l'horizon ouest. Bon, enfin, on va tenter de voir avec la préfecture s'il y a possibilité, vu que l'arrêté doit être levé le 8 au matin à 6h. Nous, c'est le 7 à 20h30. Est-ce que pour quelques heures, la préfecture sera à même de nous autoriser quand même à faire cette animation? On verra. Bien sûr, on comprendra alors s'ils opposent un
non. Faudra respecter, bien sûr.
C'est normal.
Quoi qu'il arrive, c'est un arrêté.
Mais on va quand même tenter le coup. Voilà. Après, le 8, comme d'habitude, mais là, on sera peut-être un peu plus loin d'ici. On va aller à Saint-Savin. Puisque là, normalement, à moins que l'arrêté soit prolongé, normalement, ce sera à Saint-Vivien-de-Blaye. Donc, comme on va chaque année, et on est très très bien reçu.
Donc, une autre région, hein, sur le département Nord-Gironde. Donc,
voilà, qui est pas très bien desservie par l'astronomie, je dirais, hein, au niveau des clubs et tout.
Bon, mais ça va changer, là, je vois qu'il y a de l'énergie autour de la table, mais c'est
mais
bien
bon,
d'en parler.
Voilà, on répond favorablement, même si ça fait un peu de route, et en plus, sur un week-end de chassé-croisé. On y répond favorablement parce qu'on est très très bien reçu, et surtout, il y a beaucoup de demandes de la part de la population là-bas. Donc, et le dimanche, comme tous les ans, on va aller dans les Landes, à l'écomusée de Marquèze, là aussi, sous couvert que la préfecture n'interdise pas cette manifestation. Pour l'instant, ce ne serait pas le cas, mais ça va dépendre de la météo, de l'intensité de la sécheresse, etc., etc. Voilà, après, on va aller en Espagne, nous, hein, on va souffler, puis faire d'animation, profiter à fond de la totalité de l'éclipse. Et on va revenir pour le 15 août, où on sera à Fargues-Saint-Hilaire, donc un peu plus près.
Ça, c'est un rendez-vous habituel également. Hein.
Exactement, tous les ans, pour la Nuit des Étoiles au domaine de la fraise.
Voilà, qui est très bien connu à Fargues, qui est immense, là où il y a eu le fraise sauché il n'y a pas longtemps. Donc ça, c'est un rendez-vous à ne pas manquer non plus.
Voilà.
Donc 15 août, c'est ça, Corinne?
C'est le 15 août, très samedi bien. 15 août. Et donc, par la suite, eh bien, soit on revient à nos petites... Si on a pu maintenir le 7 août à Socas, le 22, nous ferons... une soirée spéciale lune, sinon ce sera donc la date de report pour cette Nuit des Étoiles. Et enfin, on fait une petite soirée observation pour l'éclipse de lune, pour les plus courageux. Hein, ça, on se doute qu'on n'aura pas la foule des
Pourquoi
grands jours.
Pourquoi vous m'en regardez comme ça? Il y a d'autres courageux autour de la table.
Ah, mais là, je ne m'inquiète pas qu'il y en a deux qui sont plus courageux.
Ah bah, bravo
et
les gars.
Effectivement, le début, le rendez-vous étant donné à 3h30 du matin... je pense que, comme d'habitude, dans ce genre d'événement, nous aurons quand même jusqu'à une dizaine de personnes, quand même de curieux, qui ont envie de voir ça. Et effectivement, ça risque d'être frustrant parce qu'au moment de la totalité, le jour va se lever et ça va effacer la Lune, comme si c'est le même cas que la dernière fois. C'est frustrant, mais bon, allez, après, ça peut faire des images fantomatiques, c'est assez sympa.
Sur l'agenda, Corinne, c'est déjà pas mal. Hein,
c'est pas mal, hein, le mois d'août, bon. Est bien chargé.
Allez, mais je reviendrai vers vous, bien sûr, Serge et Corinne, à nouveau pour donner une petite synthèse des événements, comment se fera l'actu. Et Michel, je crois que vous voulez compléter, notamment faire un petit clin d'œil à la SAB, justement, Société Astronomique de Bordeaux. Aucun représentant pourrait être là aujourd'hui, mais ils ne sont pas en reste. Question d'animation.
Avant, je vais faire une petite précision par rapport à ce qu'a dit Corinne, parce qu'on pouvait le comprendre dans ce que tu as dit, mais les auditeurs ne savent peut-être pas tous que l'éclipse, qui est très forte en France et particulièrement dans le sud-ouest, hein, puisqu'elle atteint plus de 99% du côté de Biarritz, elle est totale sur une bande qui traverse l'Espagne de la côte atlantique jusque vers les Baléares. Et donc, pour les courageux qui vont affronter surtout les bouchons, parce qu'il va y avoir un monde fou, normalement, l'Espagne, moi j'ai des informations par un membre de mon club qui a de la famille en Espagne. Vraiment là-bas, le gouvernement se prépare à limiter éventuellement la circulation. Ils disent aux gens de ne pas prendre la voiture tout de suite après l'éclipse parce qu'il va y avoir des bouchons monstres, etc. Enfin, il y a toute une organisation logistique, si je peux dire, qui se met en place en Espagne. Parce qu'elle est totale et que c'est très très rare, hein, comme je l'ai dit, la prochaine en France sera 2081. On a des éclipses tous les ans, mais parfois il faut aller aux États-Unis, je ne parle même pas de l'Antarctique, pour les voir. Voilà, pour ce qui concerne donc les membres d'AG33 ont décidé d'aller voir l'éclipse totale, et je les comprends bien, puisque moi aussi je serai en Espagne ce jour-là.
Alors pour info...
Serge, vous serez en Espagne, pardon, excusez-moi.
Alors justement, si vous voulez regarder l'éclipse en Gironde, ce sera parfait, vous viendrez à l'Observatoire de Verre, à côté entre Libourne et Bordeaux, parce que toute l'association sera prête pour faire observer le soleil en totalité, puis après pendant l'éclipse, et comme je dis tout à l'heure, même la nuit, pour regarder le ciel habituel. Donc... n'hésitez pas à venir nous voir.
Ouais. Très bien.
Nous, on y va quand même 3 jours. Hein. On y va la veille, on repart le lendemain. Ça
non,
pas
mais vous faites bien, vous faites bien. Là, c'est des taquineries parce qu'on se connaît bien, mais vous avez bien raison de profiter.
Bon, nous, je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour les Bordelais, mais il faut savoir que tout le club ne va pas en Espagne. Il y aura aussi un accueil du public pour observer l'éclipse à Saint-Médard-de-Mussidan, pour être précis, en Dordogne, donc à peu près 1 heure de route de Bordeaux. Alors pour revenir à la SAB, la Société Astronomique Bordeaux, qui est souvent avec nous pour parler des grandes manifestations nationales, hein, comme les Nuits des Étoiles, elle ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui et malheureusement elle devait participer à la soirée organisée par Cap Science le 31, ce samedi,
qui vendredi.
Est soirée vendredi. Ah, c'est vendredi.
Oui, c'est pas grave.
Soirée qui a malheureusement été annulée vu le contexte à Mérignac. Toutes les autres animations que j'ai pu trouver sur le site de l'AFA ont été inscrites, bien sûr, avant les incendies, et je les relate ici sous réserve des décisions que seront amenés à prendre leurs organisateurs en fonction de l'évolution de la situation dans le département et leur commune pendant la dizaine de jours qui nous séparent encore des Nuits des Étoiles. JAL Astronomie avait prévu d'intervenir le vendredi 7 à Gradignan avec la Maison de la Nature pour une observation du ciel à partir de 21h au Parc Sainte-Albe, puis le samedi 8 à Martignas-en-Jalles à leur observatoire situé au parc des sports et loisirs Colette-Besson de 14h à 18h pour l'observation du soleil, des ateliers destinés aux enfants et des films sur les constellations et la mythologie, puis le soir l'observation du ciel nocturne. Plus loin de l'agglomération bordelaise, même si pour le moment il n'est guère envisageable de se rendre du côté du bassin d'Arcachon, des animations étaient prévues au sud du bassin par le club d'astronomie Cap Sud, le vendredi 7 à partir de 22h à la Teste de Bûche, au site des Archers du bassin, puis le dimanche 9 sur le parking des plages du Petit Nice, aussi à 22h, précédé le matin par une observation du soleil entre 10h30 et midi à la mairie annexe du Pilat-sur-Mer. Pour toutes ces animations, je conseille à nos auditeurs intéressés de vérifier les informations sur le site de l'AFA et sur les sites de chacun de ces clubs, car il est difficile de prévoir l'évolution de la situation des communes concernées pour les 10 prochains jours et les éventuelles annulations qui pourraient survenir.
Voilà, c'est vrai qu'il faut suivre l'actualité. Je vous écoutais, Michel, attention, on se quittera en donnant les dates des prochaines chroniques. Ben Serge, si on veut suivre l'actualité, alors évidemment, on ne va pas redire, là, on suit tous avec attention voilà, les incendies, etc. Donc, on est obligé de s'adapter, bien sûr, à toutes les prérogatives et les arrêtés préfectoraux. Mais si on veut suivre l'actu, ça permet également les réseaux sociaux de pouvoir donner des infos si on annule ou on reporte. Mais comment on peut suivre toutes vos actualités, Serge ?
Alors nous regardons beaucoup plus le ciel qu'étant présent sur les réseaux sociaux, ça c'est clair. Par contre, sur le site internet Vega de la Lyre, Vera, vous avez les informations. On a aussi des mails vega.lyre.vera@gmail.com. Là, vous pouvez nous poser des questions, on répond dans la journée. Il n'y a aucun souci. Il y a aussi un numéro de téléphone qui existe sur notre site internet. Et la chose que je voulais partager, c'est que nous allons voir la nuit des étoiles. Il y a souvent beaucoup, beaucoup de monde. C'est la grande kermesse de l'astronomie, j'appelle ça comme cela. Hein. La grande kermesse de l'astronomie, c'est la fête. Tout le monde est content. Tout le monde peut accéder et voir. Par contre, donc pour l'éclipse du soleil le mercredi 12 août, ce sera plus intimiste avec exactement la même proposition d'astronomie. L'après-midi qui sera très belle et en début de soirée avec l'éclipse au soleil, mais aussi la nuit pour observer. Donc pour ceux qui veulent avoir un accès plus... on va dire plus long, plus privilégié le soir. Il faudra en profiter pour le 12 août. Ce sera quand même un des points et on pourra regarder le même ciel avec les mêmes étoiles filantes, contrairement à ce que certains disent. 4 jours après, il y aura autant d'étoiles filantes que normalement que le 8 août. Voilà.
Il y en aura plus parce que c'est le jour du maximum normalement.
Voilà, ça dans la théorie, parce qu'alors là, les prévisions d'étoiles filantes,
c'est comme
ça
la météo. Je vous laisserai débattre après coup.
C'est pire que la météo, mais on parle de la même chose.
Mais ouais. Entre passionnés.
Entre passionnés, c'est très bien ce que ça veut dire. Ce sont que des prévisions, mais en tous les cas, on peut très très bien voir les étoiles filantes. Et si vous venez dans un endroit où il y a des passionnés d'astronomie, on pourra vous dire où regarder, comment regarder. Voilà, il y a des manières de faire pour en voir 10 fois plus ou 100 fois plus. Il y a des petites techniques, savoir où regarder, comment s'installer. C'est très 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 efficace, beaucoup plus que certaines informations sur les réseaux sociaux.
Bon, mais vous êtes à minima sur Internet. Hein.
Bien sûr.
Voilà, on peut pas être partout.
Et à l'observatoire en train de regarder.
Mais tout à fait, mais ça, j'avais bien noté. Là, comme on faisait un dernier tour de plateau, je sais pas si Serge, vous avez des infos concernant l'association ou des rendez-vous peut-être ultérieurs. Là, on se focalise, bien évidemment, on fait un focus sur l'actualité, mais je sais pas si vous avez un dernier mot de projet ou...
Alors oui, nous allons aussi régulièrement dans des associations, des mairies, pour faire des animations d'astronomie en direction des plus jeunes, des écoles ou des personnes âgées d'ailleurs. Donc ça, c'est quelque chose, une activité régulière que l'on fait, mais aussi tout au long de l'année, pour les personnes qui ont envie d'apprendre d'installer des télescopes, et uniquement pour cela, voilà, on leur apprend ce qu'avec toutes les petites ruses, toute notre expérience, de comment faire. C'est très très simple, c'est surtout pas une prise de tête, bien loin de là. C'est beaucoup plus simple qu'on imagine, il faut juste en avoir envie, être calme. Et pour les gens qui ont envie d'apprendre à faire l'astronomie, surtout ne commencez pas par le matériel, commencez par apprendre et le matériel viendra en suivant. Voilà.
Puis c'est bien de se rapprocher auprès d'associations comme les vôtres pour avoir les judicieux conseils, bien sûr.
Exactement, et beaucoup d'entre nous, on a commencé par là, moi le premier.
Pour pas acheter du matériel qui serait pas forcément... voilà, mais vous aurez la parole, Michel, parce que là, je gère, vous inquiétez pas. Corinne va nous dire quelques mots et vous allez pouvoir compléter, il n'y a pas de souci. Serge, merci beaucoup, et puis on aura l'occasion de se croiser un petit peu plus tard.
Bien voilà. Sûr, et nous attendons le samedi 8 août et le mercredi 12 août à l'Observatoire Vega de la Lyre de Vera.
Très bien, merci Serge. Corinne, là on fait le dernier tour de table, donc si on veut suivre l'actu, parce que vous avez tellement de rendez-vous sur les événements que même vous, parce que là déjà cette première soirée de ce vendredi a annulé, c'est la préparation, là je revois des organisateurs de Cap Science qui étaient lundi avec nous, c'est une passion, mais quand on met de l'énergie pour organiser, bon là il faut quand même raison garder,
oui.
Donc là si on veut suivre l'actu, et on espère qu'elle sera favorable, hein,
oui,
pour certaines dates, par quel biais ? Donc site internet, réseau.
Alors on a notre site internet où chaque date est cliquable.
Cliquable.
Voilà, c'est-à-dire ça renvoie vers un topic dédié d'un forum qu'on a créé bien avant le site d'ailleurs, et qui décrit, en fait, qui est vraiment dédié à la sortie de cette date-là. que ce soit solaire, que ce soit nocturne. Donc là, c'est marqué nettement maintenu ou annulé. Donc déjà, comme ça,
C'est clair et net.
Et dans le cas où on ne trouve pas l'adresse du site, pourtant très simple, ag33.fr, il suffit d'aller... Alors, on a Facebook qui marche très très bien, hein, où on met tous nos événements hein, dans la partie événements.
Oui, ça permet d'avoir même des photos, des illustrations,
exactement,
des événements, des liens, etc.
Et on a aussi un Discord, mais là c'est plus spécialisé pour les astronomes amateurs ou les curieux très, très passionnés, on va dire, hein, qui viennent nous voir pour discuter en direct avec nous. Et voilà, c'est déjà pas mal. Hein. Donc, effectivement, sur tous ces événements, quoi, sur tous ces supports, on dit clairement si c'est annulé ou maintenu, évidemment. Hein. Et on utilise aussi les groupes de chaque village, chaque ville, le groupe aussi de la commune où nous sommes.
Il faut partager, bien sûr.
Que
ça sert à ça, les réseaux.
Pour les
aussi.
Animations, que ce soit pour les soirées d'observation, toujours maintenu ou annulé pour avertir les locaux qu'effectivement. Soit on le fait, soit on ne le fait pas. Hein. Ça, la météo, malheureusement les incendies et tous les phénomènes, hein, que ce soit les sécheresses, les canicules. Hein. À ce moment, on était en canicule rouge quand même. C'était un peu compliqué de demander aux gens de venir. Quoique, c'était un peu plus
rafraîchissant. Et là, on y est. Hein, là, ça a augmenté les températures. Hein, de
mais
plusieurs.
Ça ne va pas durer. On n'est pas sur les canicules qu'on a eues les mois derniers.
Ah, ben au moins, on a une bonne info.
Oui, on va avoir.
Non, on a eu beaucoup d'infos avec les événements.
On va avoir une rebaisse. Là, normalement, ils ont parlé d'orage, mais je n'ai pas vu. Mais bon. On va avoir vendredi, samedi, dimanche, ça va un peu s'atténuer quand même. Hein.
Bon. Un dernier mot. On va donner la parole, bien sûr, pour finir à Michel.
Protégez vos yeux pour l'éclipse, ça c'est indispensable. N'essayez pas de regarder le soleil comme ça, même à 3%, même je crois que c'est un peu moins, 2%. Protégez vos yeux. Parce que sinon, les ophtalmos, ils s'attendent déjà à avoir des carnets de rendez-vous très pleins.
Ah ben oui, ils aiment bien la lune.
Mais non, c'est pas vraiment...
Non, je rigole,
Protégez vos yeux.
Mais c'est important de le rappeler.
Franchement, pour
oui.
nous, astronomes amateurs, et même pour les professionnels, les yeux, c'est ce qu'il y a d'essentiel en astronomie. Hein.
Voilà, puis même dans la vie de tous les jours. Mais c'est important de donner les bonnes infos.
Particulièrement en astronomie.
Oui, oui. Non, mais là, d'avoir de bons yeux, de les préserver. Merci beaucoup, Corinne, à chaque fois, pour votre présence. Alors, Michel, je sais que vous voulez compléter, puis on conclura sur la prochaine chronique. Mais là, je voulais rebondir, je crois, soit sur l'intervention
déjà,
de Serge ou de Corinne.
Je vais recompléter un peu
ce que
vient de dire Corinne. Ce qu'il faut savoir, c'est que la lumière du soleil est très dangereuse pour les yeux. Quand on regarde le soleil en face, la lumière trop intense vient toucher la rétine dans l'œil et peut la brûler. Et malheureusement, on ne sent rien parce qu'il n'y a aucun nerf de détection de la douleur dans la rétine. Donc on peut devenir aveugle ou partiellement aveugle en observant le ciel à l'œil nu. Alors je ne parle même pas des jumelles et autres qui concentrent encore plus la lumière du soleil. Donc il faut absolument se protéger les yeux quand on veut regarder une éclipse ou le reste du temps le soleil. Ne jamais le regarder, même à l'œil nu, sans aucune protection. Et puis pour toujours Corinne, je précise un petit peu parce que elle a beaucoup parlé des animations de cet été. Or, comme Vega de la Lyre, il faut savoir qu'AG33 accueille toute l'année le public sur le site de SOCATS. Hein. C'est parmi les clubs d'astronomie qui ont une grande activité, disons, de vulgarisation scientifique auprès du public et d'observation du ciel. Ce que disait Serge tout à l'heure, c'est un élément, je dirais, général en astronomie aussi. Je vais redire un mot là-dessus. Le premier conseil qu'un astronome peut donner à des personnes qui s'intéressent au ciel, c'est de ne pas acheter d'instruments. Il faut d'abord aller dans les clubs, voir ce que c'est que l'observation astronomique, comment se manipulent les instruments, ce qu'on voit réellement dedans, parce que certains s'attendent à voir comme les photos dans les revues ou autres, et c'est pas ça du tout. Donc, avant de se dégoûter et d'avoir dépensé des centaines, voire des milliers d'euros pour rien, il vaut mieux d'abord aller voir dans les sites, dans les clubs. Et une fois qu'on aura confirmé, je dirais, l'intérêt pour l'observation du ciel, il sera toujours temps d'acheter un instrument. Et bien sûr, pas les jouets de Noël qu'on trouve dans les catalogues ou en ligne, mais aller vers des vrais opticiens qui connaissent le domaine de l'astronomie, comme la boutique que j'indiquais à Bordeaux tout à l'heure. Il y a très peu de boutiques spécialisées en astronomie. Hein. On peut les compter pratiquement sur les doigts des deux mains pour toute la France. Hein. Voilà. Sinon, ben, on continue, sauf imprévu, les chroniques. Et la prochaine devrait être le jeudi 27 août, puisqu'il y avait un souci de planning pour le mercredi?
Non, c'est pas un souci, c'est que le mercredi, nous, on sera en extérieur. C'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir... On prend ce jour-là le mercredi, mais là le 26 août, voilà, on est sur la fin de quartier d'été à Bassens et on va passer une belle journée. On aura différentes émissions en direct. Voilà, c'est pour ça que je vous demande Michel de légèrement décaler.
C'est pas plus mal
du 26 au 27 août.
Ça me laissera un jour de plus pour me remettre de mon voyage en Espagne, parce que moi aussi j'y vais pas que pour 3 jours. En fait, j'y vais plus une semaine, parce que j'emmène toute la famille, les enfants et les petits-enfants. Je tiens à ce qu'ils voient une éclipse totale dans leur vie, même si sur la côte nord de l'Espagne, il y a à peu près une chance sur deux d'avoir des nuages. Donc je pense que le 27 août, on parlera sans doute un petit peu de ce qui s'est passé pour les Nuits des Étoiles et pour l'éclipse, dans quelles conditions elle a pu être vue en Gironde et en Espagne.
Très bien. Si on a eu une bonne météo, on pourra peut-être t'accompagner pour venir te dire « Ah ben nous, on s'est régalé au milieu de l'Espagne ».
Ah si, ça vous intéresse.
Vous appelez Michel pour organiser.
Et surtout, j'espère pouvoir réaliser quelques photos. Et à la limite, j'en enverrai une pour mettre en ligne sur le site d'O2.
Très bien. Bah, écoutez, au moins, on se quitte sur des notes positives. Voilà. Merci Michel également. Hein. Donc, 137e chronique, le 27, vous voyez, moi et mes mots techniques. Allez, merci à tous les trois, bien sûr, et puis toutes les associations et proches que vous représentez.